Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 5 mai 2026. Au menu aujourd'hui, eh bien justement, on ira faire un tour dans les cantines du Crous avec les repas à 1 euro qui viennent d'être appliqués à tout le territoire. Mais visiblement, les moyens ne suivent pas pour que ça puisse vraiment avoir des effets. On va faire quelques tours en mer, notamment autour du détroit d'Ormuz, voir un petit peu ce qui continue de se passer dans cette zone sous tension. Aussi un tour en Inde avec des élections qui ont marqué un gros tournant dans le nord du pays. On va aussi prendre des nouvelles des militants de la Global Flotilla, la Global Sumut Flotilla, la flotille qui essayait d'atteindre les eaux de Gaza, qui ont été interceptées, arrêtées, voire même enlevées selon droit international par les forces israéliennes. On va parler aussi de Sophie la girafe, de la chanteuse MIA et des Free Party qui sont dans le viseur, les collimateurs du gouvernement. On commence donc par prendre des nouvelles de ces militants pour la libération de la Palestine, hein, notamment de ces deux noms, Thiago Avila et Saïf Aboukeshek, donc un Brésilien et un Suédois, de nationalité espagnole et suédoise, pardon, pour Aboukeshek, espagnol et suédois, deux militants donc emprisonnés depuis samedi 2 mai à la prison de Chikma en Israël. Ils font partie de tous les militants capturé, arrêté par l'armée israélienne, c'était dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, je vous en avais parlé ici, 176 militants et militantes interceptés, ce sont les mots des forces israéliennes, même si on était bien loin des eaux territoriales. La plupart de ces militants ont été relâchés en Grèce depuis, alors que le reste de la flottille, hein, donc quand même une bonne plusieurs centaines d'autres navigateurs et navigatrices, étaient laissés à la dérive en mer, sur le chemin d'une tempête. De nombreux moteurs de ces bateaux ont été notamment sabotés par l'armée israélienne. On avait peu de nouvelles de ceci. La seule info que j'ai pu trouver, relayée par l'agence turque Anadolu Agency, c'est que ce qui reste de la flottille était de nouveau encadré par des drones et des hélicoptères hier soir, en vue peut-être d'une future nouvelle arrestation en mer. Pas de nouvelles donc de ce côté-là pour l'instant, mais des nouvelles donc des militants qui ont été emprisonnés. Donc c'était ce vendredi 1er mai que tous les marins enlevés avaient été remis aux autorités grecques, donc les 174, sauf donc ces deux personnes, Saïf Aboukeshek et Thiago Avila, respectivement pour le premier soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste et Thiago Avila, lui, pour activité illégale. Israël les a donc tous les deux fait transférer dans une prison sur son territoire pour les juger dans ces tribunaux d'exception. Un petit profil de ces deux militants. Saïf Aboukeshek est donc hispano-suédois mais d'origine palestinienne. Thiago Avila, lui, est citoyen brésilien. Ils sont tous les deux détenus donc à la prison de Chekma en Palestine occupée. Torture, passage à tabac, mauvais traitements et soins médicaux insuffisants ont été rapportés. Et ces deux militants sont depuis leur arrestation en grève de la faim. On est donc à leur sixième jour. Le premier, donc Saïf Aboukeshek, est un des coordinateurs de cette flottille. Hein. C'est Thiago Avila, un communicant brésilien de 38 ans, engagé de longue date pour la cause palestinienne. C'est la cinquième fois qu'il fait une flottille. En octobre dernier, il a été déjà passé par les geôles dans la prison d'Ashdod. Quant à Saïf Aboukeshek, donc maintenant, lui est né en Palestine, installé à Barcelone depuis. Il a été l'un des organisateurs de la marche mondiale pour Gaza à l'été 2025. Il a aussi fait partie de la Conférence populaire des Palestiniens à l'étranger, une organisation qui est visée depuis janvier par les États-Unis. Ceux-ci affirment qu'elle est en réalité contrôlée clandestinement par le Hamas. Thiago Avila donc, et Saïf Aboukeshek ont été présentés ce dimanche devant un tribunal qui a prolongé leur détention de deux jours jusqu'à donc ce mardi. où il devait passer devant un juge. L'organisation de défense des droits des Arabes israéliens, Adala, assure leur défense. Et cette organisation affirme que les deux détenus ont subi des tortures et de la violence sur le bateau prison, puis lors de leur incarcération en Israël. Ils sont, je vous le disais aujourd'hui, toujours en grève de la faim. L'organisation Adala alerte également sur les conditions de détention. Elle évoque des pressions psychologiques et des mauvais traitements. Par exemple, des interrogatoires qui ont pu durer jusqu'à 8 heures de suite, des menaces de mort ou des menaces de passer 100 ans en prison. Leur emprisonnement dans des cellules avec un éclairage intensif permanent et des déplacements systématiquement effectués, les yeux bandés, même pendant les visites médicales. Tout cela fait partie aussi des formes de torture psychologique ou de torture blanche, notamment bander les yeux d'un patient pendant une visite médicale, qui est une violation flagrante des normes éthiques et médicales. Israël, de sa part, accuse donc les deux militants de lien avec le Hamas palestinien, qui est au pouvoir à Gaza. Cette accusation est, selon l'Espagne, sans fondement concernant donc son ressortissant. La diplomatie israélienne avait, elle, nié ce dimanche tout mauvais traitement en détention. Direction le détroit d'Ormuz, où le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été mis à rude épreuve hier, puisque l'armée américaine décidait à permettre le passage de certains de ses navires bloqués, affirmait avoir détruit plusieurs bateaux iraniens, ce qui est démenti par le pouvoir à Téhéran. En revanche, les Émirats arabes unis ont essuyé la première attaque iranienne contre des installations civiles depuis le cessez-le-feu il y a un mois. Et cette tension croissante fait donc craindre le pire aux pays de la région qui se préparent à une reprise des hostilités. En représailles donc à l'annonce par Donald Trump d'une opération militaire destinée à rétablir la circulation des navires bloqués dans le golfe d'Ormuz, l'Iran procédait à de nouveaux tirs vers l'un de ses voisins du golfe hier. C'était donc en direction des Émirats arabes unis. C'est une attaque de drone qui a provoqué notamment un incendie sur le site pétrolier de Fujairah, à côté du détroit d'Ormuz, blessant 3 personnes. Auparavant, à la mi-journée, donc toujours hier, l'agence de presse iranienne Fars affirmait que l'Iran avait, lui, tiré 2 missiles contre une frégate de l'armée américaine qui s'approchait du détroit d'Ormuz, mais l'armée américaine a démenti qu'un de ses navires avait été frappé. Donc impossible de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est aussi une guerre de l'information à laquelle se livrent ces deux géants. La Corée du Sud, elle, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait soigneusement réexaminer sa position concernant justement son éventuelle participation aux opérations américaines dans le détroit d'Ormuz, suite à l'explosion dont a été victime un cargo qui a été affrété justement par l'armateur sud-coréen HMM, sans faire 2 victimes. Alors qu'en est-il des négociations donc en parallèle de ces passages d'armes? Du côté iranien, le responsable politique des gardiens de la révolution expliquait que le passage par le détroit d'Ormuz se ferait seulement avec l'autorisation donc, des gardiens de la révolution. Et dans la soirée, l'Iran lançait une série d'attaques contre les Émirats arabes unis, qu'ils accusent de faire le jeu d'Israël dans la région, notamment contre les ports de Jabal Ali et, je vous le disais, d'Al-Fujairah. Le pouvoir iranien affirmait que les Émirats étaient désormais encerclés et que la zone sous contrôle des gardiens de la révolution s'étendait jusqu'à la partie est des Émirats arabes unis, ce qui signifierait que les Émirats n'ont pas l'autorisation d'exporter du pétrole depuis leur port d'Al-Fujairah, sans autorisation donc de l'Iran. L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf, prévenait ce matin que son pays n'avait même pas encore commencé le bras de fer avec les États-Unis, donc au lendemain de ses accrochages dans le détroit d'Ormuz. Et voici ce qu'il disait sur les réseaux X. « Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les États-Unis alors que nous n'avons même pas encore commencé. » Voilà, ils font donc tous les fiers à bras sur les réseaux sociaux. Et de son côté, Trump dit que la guerre est déjà gagnée de sa part, même si elle prendra encore plusieurs semaines à être menée à bout.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Voilà, on va partir en Inde où c'est la victoire écrasante du parti de Modi, hein, les partis nationalistes du Premier ministre Narendra Modi avec son parti le BJP, a obtenu une victoire écrasante, notamment après des radiations massives d'électeurs dans le Bengale occidental. Hein. Ce sont donc des élections régionales au Bengale occidental qui est le bastion historique de l'opposition, plutôt à gauche. Eh bien donc les nationalistes hindous l'ont remporté. La presse indienne dénonce, elle, un processus entaché d'irrégularités et met en garde quant à l'avenir dans cette région. c'est le BJP, le Bharatiya Janata Party. C'est le nom de ce parti affilié au Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, qui a enregistré donc sa toute première victoire hier au Bengale occidental, qui a été jusque-là le bastion de l'opposition, dirigé notamment entre 1977 et 2011 par la gauche. Le BJP, donc le parti de Modi, a remporté 206 sièges sur 294, donc une écrasante majorité, ce qui a sécurisé donc sa majorité dans cet état du nord-est de l'Inde. En face de lui, le TMC, le Trinamool Congress, qui dirigeait cet état frontalier avec le Bangladesh depuis environ 10 ans, n'a remporté donc que 81 sièges. Alors comment expliquer cela alors que le TMC était à la traîne du BJP tout au long de la journée donc de dépouillement? Le coup de grâce est arrivé en fin de journée puisque la chef du parti et la ministre en chef sortante, Mamata Banerjee, a perdu son propre siège. Cette opposante féroce, Narendra Modi, a affirmé, elle, que le BJP avait pillé plus de 100 sièges. Pour elle, il s'agit d'une victoire immorale et illégale. Dans cet état, donc le Bengale occidental, le BJP remporte une victoire décisive grâce à un travail de longue haleine favorisé par l'histoire politique de cet état, un processus électoral entaché d'irrégularités et l'essoufflement donc de son opposant, le TMC, dont la politique était arrivée à son terme. Ça, c'est l'analyse d'un éditorial du quotidien The Hindu. Le BJP, grâce à des années d'organisation méticuleuse, a rallié une partie significative de la population de l'État à son discours nationaliste totalitaire. Une autre analyse de The Hindu, qui juge que la détermination sans faille de ces nationalistes a fini par triompher. En amont du scrutin, les autorités avaient procédé notamment à une grande révision des listes électorales, ce qui avait entraîné quand même la radiation de 2,7 millions d'électeurs rien que dans cet État. Effectivement, de quoi faire changer pas mal la donne électorale. Et sur les 187 circonscriptions où plus de 5000 noms ont été radiés, le BJP, par exemple, a remporté 119 sièges. Donc une stratégie qui a été visiblement payante. C'est une élection qui a été la plus entachée de l'histoire électorale indienne. Continue toujours le journal The Hindu. Il rappelle donc que près de 2,7 millions de personnes ont été radiées arbitrairement des listes électorales et que la Cour suprême a condamné avec la plus grande fermeté cette atteinte au fondement de la démocratie. Si cela présage de l'avenir, il y a lieu de s'inquiéter sérieusement, conclut le quotidien. Et d'ailleurs, ça a été une stratégie qui a été même attribuée concrètement au BJP, puisque un cacique de ce parti déclarait cela au site d'information Scroll avant les élections. Il disait « Plus il y aura de noms rayés de la liste électorale, moins il nous faudra de voix pour gagner. » Puisqu'en effet, beaucoup de ces électeurs qui ont été radiés dans cet État étaient des électeurs musulmans qui sont traditionnellement justement opposés au BJP. Lui, donc je vous le disais, d'obédience hindoue et fortement nationaliste.
Laisse béton.
On revient en France avec ce qui fait tache dans cette success story à la française, c'est Sophie la girafe, le symbole du Made in France. Eh bien en fait, elle est produite en Chine et depuis belle lurette et en grosse quantité. Son fabricant est donc dans le viseur aujourd'hui de la répression des fraudes. Sophie la girafe, hein, ce petit jouet en caoutchouc, jouet préféré des bébés, est censé être produit à Rumilly, en Haute-Savoie. En fait, elle vient de Chine. C'est Mediapart qui l'a révélé dans une enquête publiée ce 3 mai. Cette girafe en caoutchouc naturel, dont l'origine remonte à 1961 dans l'Oise, elle a ensuite été fabriquée à partir de 1991 en Haute-Savoie, est devenue le cadeau incontournable des naissances et elle est même connue à l'international, hein, puisque entre 700 et 800 000 exemplaires sont fabriqués chaque année de manière artisanale dans l'usine et sont donc en partie exportés. Donc c'est un vrai symbole, soi-disant, du Made in France. Le mythe vient de s'effondrer, hein, dans cette enquête de Mediapart. On y apprend que depuis 2013, un grand nombre de Sophie la girafe sont produites dans des usines chinoises. Selon de nombreux récits et documents, depuis 2019 au moins, la production réalisée en France n'est qu'infinitésimale, servant surtout de vitrine pour dissimuler la réalité. En effet, cette usine serait à l'arrêt ou presque, et la seule activité qui persiste, d'après le média, serait d'empaqueter et de réexpédier les jouets reçus en provenance de Chine. On est donc bien loin de la success story et du narratif porté par l'entreprise. Le dirigeant de celle-ci, Alain Thirion, se justifiait à l'AFP en disant que Vully, donc c'est le nom de la marque, fait fabriquer ses girafes nues en Chine. Mais toutes les girafes, dit-il, sont terminées et surtout contrôlées une par une en France. Or, d'après lui, la fabrication en Chine n'a jamais été un mystère pour personne. Si on nous demandait, on le disait. Et donc, selon lui, Sophie la girafe y a été produite en partie là-bas depuis une trentaine d'années. En fait, depuis quelques années, étant donné que des retards se sont accumulés dans la finalisation de l'usine de Saint-Nabor, qui est censée prendre la relève, l'entreprise a dû faire appel à des sous-traitants en Chine pour fabriquer la totalité de certaines girafes. D'après ces informations obtenues par Mediapart, le premier conteneur rempli d'exemplaires de Sophie la girafe en provenance de Chine aurait été livré en 2001 quand même. D'ailleurs, là où le bât blesse, c'est qu'encore l'année dernière, de nombreuses boîtes avec écrit « Made in France » dessus ont été retrouvées par la direction des fraudes. D'ailleurs, sur le site d'Amazon, par exemple, qui vend ça en ligne, en Corse, hier, les journalistes ont pu trouver la mention « La célèbre girafe fabriquée à la main à Rumilly en France avec ses 14 opérations manuelles ». C'est encore ça qui est écrit donc sur les petits descriptifs permettant d'acheter ces jouets en ligne. D'après Mediapart, donc, la direction des fraudes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c'est le nom complet, a ouvert donc une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Cet organisme précise toutefois qu'allégué d'une fausse origine française sur un produit peut caractériser une pratique commerciale trompeuse et donc tout cela serait passible d'une sanction pénale, une sanction qui peut atteindre quand même 10% du chiffre d'affaires pour une entreprise. Le président donc, de la marque Julie explique être en discussion avec la direction des fraudes, justement pour savoir ce que recoupe l'appellation « Made in France ». Il joue un petit peu sur les mots. Pour rappel, d'après la direction générale des entreprises, hein, pour qu'un produit normalement soit étiqueté « Made in France », dans la réglementation, il faut qu'il soit entièrement obtenu en France. Donc tous les composants seraient issus de France et toutes les étapes de fabrication ont lieu en France. Donc voilà, s'il veut des éclaircissements, a priori, ça risque pas d'aller en faveur. S'il n'est pas entièrement obtenu en France, ce produit, normalement, il faudrait qu'il ait subi en France sa dernière transformation substantielle. Reste à voir si la substance ici sauvera un petit peu l'affaire. On reste toujours en France et c'est dans les colonnes de Révolution Permanente qu'on s'interroge et qu'on enquête sur ces fameux repas à 1 euro, le repas du Crous, qui est désormais accessible à tous les étudiants depuis ce lundi 4 mai. Donc le repas Crous 1 euro a été généralisé à tous les étudiants, donc qu'ils soient boursiers ou pas. C'est une annonce qui avait été faite par Sébastien Lecornu au mois de janvier, une mesure qui était une concession au Parti Socialiste pour permettre au gouvernement de faire passer un budget ultra austéritaire. C'était donc la mesure sociale mise en avant avec la jeunesse censée être la bénéficiaire de cette mesure. Or, seulement un jour après la mise en place effective de cette mesure, les limites s'en font déjà ressentir et pour Révolution Permanente rappelle l'hypocrisie du gouvernement sur cette question. C'est une enveloppe de 50 millions d'euros du ministère pour l'ensemble du réseau des Crous qui doit couvrir le prix des repas à 1 euro, eh bien, cette enveloppe ne permet pas de couvrir le coût réel de la généralisation. En conséquence, on peut donc déjà observer dans plusieurs restaurants la réduction des portions et la généralisation du repas à points, c'est-à-dire une formule qui vise à limiter le nombre des périphériques auxquels on a droit par repas. Les périphériques, ça va être entrée, dessert, fruits, fromage, donc c'est pas à volonté avec cette nouvelle mesure. Et surtout, pour les étudiants, le nombre de repas se retrouve restreint à un seul par service. Alors qu'auparavant, vous le savez peut-être pas, mais dans les restaurants universitaires, les étudiants pouvaient acheter jusqu'à 2 repas par service et 4 le vendredi, ce qui permettait par exemple d'acheter le repas du soir, de le faire réchauffer ou de le mettre au frais pour pouvoir manger aussi le week-end. Donc maintenant, c'est un repas par jour pour tous et toutes. Et donc, comme je vous le disais, de nombreux étudiants comptent normalement ou comptaient sur cette possibilité pour pouvoir manger les soirs et les week-ends. Cela n'est donc plus possible, ce qui va pénaliser en premier lieu ceux qui comptaient beaucoup dessus, notamment les étudiants boursiers. Donc en gros, ils sont sommés. Tous les étudiants maintenant doivent partager un gâteau un petit peu trop faible. Et ça va certainement défavoriser les plus démunis. Pour les restaurants universitaires aussi qui ne sont pas ouverts le soir, comme par exemple à l'université de Saint-Denis, de nombreux étudiants ne peuvent pas manger au Crous 2 fois par jour et vont donc être forcés de se débrouiller pour le repas du soir, ce qui va augmenter leurs dépenses alimentaires. De plus, si on regarde du côté des moyens mis en œuvre, le gel des embauches qui est voté par le CNUS, signifie que les personnels des restaurants universitaires, qui sont déjà en surcharge de travail, doivent tout seuls porter la charge d'accueillir cette arrivée massive d'étudiants qui va aller avec cette mesure. L'augmentation environ, elle est chiffrée de 12 à 15%. Cette situation est intenable pour des travailleurs qui sont déjà surexposés aux accidents du travail. On apprend ainsi qu'en 2024, l'UNSA comptabilisait 903 accidents du travail. Ça fait 1 pour tous les 14 agents. Et donc, pour protester contre ce manque de moyens, tout en rappelant l'importance de la généralisation de ce repas en euros, les travailleurs des Crous s'étaient déjà mobilisés nationalement le 2 avril dernier à l'appel de leur syndicat, la CGT Crous. Et puisqu'on est dans les moyens, hormis les travailleurs, il faut aussi des nouveaux réfectoires et aucune construction n'est prévue, alors même que beaucoup de zones universitaires ne disposent déjà pas d'un restaurant universitaire à proximité, ce qui fait que les étudiants qui s'y trouvent sans autre alternative que de faire des longs déplacements pour trouver un resto U ou manger. On compte entre 800 et 900 lieux de restauration en France pour environ 3 millions d'étudiants, ce qui fait 1 pour 3 000. La généralisation de ces repas à 1 euro va aussi signifier l'obligation de passer par la plateforme de paiement Easly. C'est un paiement en ligne qui est lié à la BCPE et certains étudiants y voient à redire puisque la BCPE a financé des activités liées à la colonisation en Palestine. Le paiement par carte bancaire n'est en effet plus possible dans les Crous, sauf si on accepte de payer le tarif maximal de plus de 8 euros pour un seul repas. Si le repas à 1 euro pour tous est donc une mesure d'urgence absolument essentielle, sa mise en place aujourd'hui se fait au détriment des conditions de travail des employés et de la qualité de service pour les usagers. Pire encore, donc, vous l'aurez compris, les boursiers vont voir leur nombre de repas diminuer. Et c'est donc pour beaucoup une annonce de façade qui a permis à Sébastien Lecornu de faire passer son budget austéritaire avec le PS. Et donc le gouvernement montre une fois de plus qu'il n'est pas l'allié des étudiants précaires.
Je fais what? D'où ça sort quoi? D'où ça sort?
Je vous donne deux petits rendez-vous du côté du Vigan, un apéro féministe organisé par le groupe local Planning Familial Sud-Cévennes aura lieu à la petite base le 19 mai, donc dans deux semaines, à partir de 19h. Un rendez-vous informel pour se retrouver, discuter, tester des jeux et des animations. Voilà, vous pouvez venir avec des questions, des propositions et de quoi grignoter éventuellement. Les boissons se feront à prix libre sur place en soutien au local associatif pour y discuter questions féministes. Et toutes les minorités donc, seront les bienvenues et mieux représentées. Voilà, l'occasion aussi de vous rappeler que nous avons reçu toute cette équipe au micro d'Escapade il y a une petite quinzaine de jours et que un podcast est disponible si vous le souhaitez sur notre page. Et j'ai aussi un autre rendez-vous du coup de ces collectifs qui vous invite aussi à une première réunion d'un groupe d'auto-support autour de la question des maladies chroniques. Ça s'appelle « Vivre avec des maladies chroniques et des handicaps, on en cause ?» Point d'interrogation. Voilà, donc c'est une volonté de créer un espace de parole pour les personnes concernées pour parler donc de maladies chroniques. Donc c'est une maladie dont les effets peuvent perdurer dans le temps et de handicaps. Ils expliquent bien que cela peut concerner un grand nombre de vécus très divers et pensent que malgré tout il y a des endroits qui peuvent se toucher et qui peuvent correspondre. Ils vont aussi d'ailleurs pour l'avenir peut-être réfléchir à des mixités choisies spécifiques si besoin, mais en tout cas une première réunion discussion justement pour affiner tout cela. L'idée c'est de pouvoir partager les galères, échanger sur les stratégies individuelles pour y faire face ou faire face aux médecins et trouver du soutien mutuel, se donner éventuellement des bons plans ou aussi les mauvais plans à éviter. L'idée de ces rendez-vous, c'est donc de se rencontrer, de voir quels sujets font envie pour discuter, quelles sont les attentes autour d'un espace comme celui-ci et les craintes. Donc voilà, autour de la question des maladies chroniques et des handicaps, avec, explique encore ce petit texte, pas l'envie de mettre justement une délimitation claire entre des problèmes de santé psychique ou de santé physique, parce que pour eux, cette binarité est produite par un système scientifique qui cherche sans cesse à tout simplifier pour mieux mettre dans des cases, et dans les faits, c'est souvent inextricable. Voilà, donc vous êtes invités à la petite base, là aussi, place de la mairie au Vigan. Est-ce que j'ai pris la... Maintenant que j'ai oublié de noter la date, c'est malin mon histoire. En tout cas, toute question, la petite base @mailo.com. Peut-être que c'est déjà l'occasion de vous présenter et vous aurez plus d'informations ensuite sur l'accès, etc. et les horaires. Voilà, j'essaierai de vous les retrouver sinon d'ici ce jeudi. On termine avec deux petites brèves autour du monde de la culture. D'abord, cette info people, on va dire, hein, c'est la chanteuse MIA qui vient de se faire virer de la tournée de Kid Cudi. L'artiste américain a en effet retiré cette chanteuse britannique des futures dates de sa tournée américaine en raison de propos controversés de la britannique durant de précédents concerts. Elle a viré conservateur et a affirmé avoir voté pour Trump. Elle a d'ailleurs soutenu sa candidature. Voici ce qu'a écrit Kid Cudi. « Après les récents concerts, j'ai été submergé de messages de fans bouleversé par les propos injurieux de MIA. C'est très décevant pour moi, je ne tolérerai pas qu'une personne sur ma tournée tienne des propos offensants qui contrarieraient mes fans. » Par exemple, MIA, le 2 mai dernier, pendant donc, la première partie de Kid Cudi à Dallas, elle a expliqué qu'elle était républicaine sur scène et qu'elle ne pouvait donc pas chanter sa chanson illégale, même si à l'époque, même si elle disait que certains dans le public étaient peut-être des illégaux. Donc voilà, elle faisait probablement référence aux politiques anti-immigration du président Trump, qu'elle a donc soutenu lors de sa dernière campagne quand même. La chanteuse et rappeuse quand même d'origine sri-lankaise et résidente britannique, et qui a chanté beaucoup de choses sur justement les immigrants à l'époque, s'est attirée les huées des spectateurs face à ses revirements. Elle a fait aussi d'ailleurs l'objet d'autres critiques ces dernières années, notamment des publications provocatrices sur les réseaux sociaux, assez complotiste, elle suggérait que le Covid-19 était en partie causé par le développement des réseaux mobiles 5G et exprimait son idéologie anti-vax très très affirmée en disant « si je dois choisir entre le vaccin et la puce, je préfère la mort ». Bon, en tout cas, visiblement, ça sent plutôt la mort artistique pour elle. De toute façon, son dernier album déjà a été principalement dédié à la gloire de Jésus.
Je fais what ?
Désolé, petit bug technique. On termine avec des nouvelles de cette free party près de Bourges, sur le fameux terrain militaire. Elle termine de se vider. Le site se vide. Les participants, eux, sont verbalisés à la sortie, comme l'avait ordonné Laurent Nunez. Les participants sont verbalisés doublement pour avoir pénétré sur un terrain militaire en 1 et pour avoir participé à un rassemblement illégal en 2. Hier matin, déjà, ils étaient encore 8000 personnes au maximum sur place, ce que faisait savoir la préfecture du Cher. Quelques systèmes son fonctionnaient encore, mais la plupart des scènes, elles, étaient démontées. Et le nettoyage du site a été, opéré par les participants qui l'ont rendu nickel chrome. A noter d'ailleurs que certains médias ont pointé la présence de restes d'obus sur scène avec des images qui ont fait plutôt rire, puisqu'on y voyait notamment un soc de charrue en métal montré par le journaliste, présenté comme un reste d'obus. Visiblement, personne n'a explosé. En tout cas, toutes les personnes qui ont quitté les lieux, elles, étaient bien contrôlées, notamment avec les 14 points établis par les gendarmes depuis le début de l'événement, des vrais checkpoints à la sortie. Une free party qui a réuni jusqu'à 17 000 participants, voire même 40 000 selon les organisateurs. On s'attendait quand même à ces contrôles, explique par exemple une fêteuse qui a été interviewée. Elle parlait de la police en disant « ils ne sont pas méchants, ils sont cool, à partir du moment où on sait qu'on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas mort d'homme ». Ça c'est ce qu'explique Sam, un autre toffeur philosophe face à l'amende qui s'est prise, 300 balles dit-il, bah c'est le jeu, on va dire. Laurent Nunez affirmait en effet que tous ceux qui sortaient du Technival seraient verbalisés à double titre, donc je vous le disais, pour pénétrer sur un terrain militaire et participer à un rassemblement illégal. On soulignera quand même que ce fameux terrain militaire dangereux n'avait aucune clôture autour de lui, donc visiblement plutôt un champ de cailloux, et que s'il est si dangereux que ça, il aurait peut-être fallu mettre des grillages. Comme les organisateurs, en tout cas beaucoup de participants présents à cette fête étaient là aussi pour manifester, pour protester symboliquement et protester contre l'arsenal législatif qui va renforcer la pénalisation des rave parties non déclarées ou interdites. Des rassemblements sont prévus par la suite ces 30 mai, 6 juin et 13 juin dans plusieurs villes, notamment Paris, pour dénoncer cette PPL, cette proposition de loi 1133, qui a été déjà adopté à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas encore été examiné par le Sénat. Le texte prévoit pour l'heure une peine de 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende pour sanctionner toute contribution, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est là où c'est assez fou, concernant la préparation, la mise en place ou le bon déroulement d'une rave party qui serait non déclarée ou interdite. Voilà. Et bien, pour apporter notre soutien à ce mouvement, et aussi faire un petit clin d'œil au groupe Krav Boka qui nous a délivré un très beau concert ce vendredi à Sauve, on va écouter ce morceau qu'ils ont eux aussi dédié d'ailleurs au mouvement des Free Party et qui s'appelle Pirate Party. Et c'est avec ça qu'on se quitte et on se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde.
Le son qui met la pression. C'est l'oppressé contre la répression.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.